Bonjour et bienvenue à tous sur Esprit Occitanie pour un nouveau numéro de L'Oreille sur l'Actu, présenté par moi, Chana Oudjani, avec mes très chers collègues stagiaires Lilou Saint-Viteux et Bastien Lemieux.
Bonjour Chana.
Vous écoutez une émission qui traite de l'actualité chaude des derniers jours à travers l'œil et les oreilles de jeunes citoyens. Nous allons nous intéresser à une grande institution qui est l'Europe aujourd'hui. L'Europe est une union à 28. L'Union européenne, UE, est une association d'États européens réunis autour des domaines économiques et politiques afin d'assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser le progrès économique et social. Vous avez quelque chose à ajouter, les deux stagiaires ?
Non, pas spécialement. On attend la suite avec impatience.
Vous êtes d'accord sur ma définition de l'Europe ?
Oui, continue. Pour l'instant, tout va bien.
Oui. Nous savons que nous sommes à 3 semaines des élections européennes. Mmh. La question qui est légitime de se poser est qui est en tête des voix et quel parti se détache ? Eh bien, c'est le Rassemblement national. Deux sondages donnent la liste du fameux parti devant La République En Marche, alors que le dépôt des candidatures s'est achevé ce vendredi à 18h.
Oui, faut rappeler aussi que le Rassemblement National, dans son ancien nom, le FN, est arrivé premier aussi aux dernières élections.
Oui.
Avec aussi un taux d'absentéisme de 51%, on peut y voir bien sûr un lien.
Il faut savoir que si le Rassemblement National est en tête des voix, ce n'est pas pour rien. Les élections européennes sont les élections avec le plus grand taux d'abstention. C'est pour cela que le parti de Marine Le Pen se démarque à chaque fois, à chaque élection.
Bien sûr, ils invitent toujours... C'est une élection où les partisans votent en masse, notamment des partis qui n'arrivent pas à se détacher des élections nationales.
Effectivement, Bastien. Alors, les listes de candidats aux élections européennes 2019 ont toutes été déposées au ministère de l'Intérieur. Les candidats aux européennes avaient jusqu'à ce vendredi 3 mai à 18h pour déposer leur liste. La présence d'une, voire plusieurs listes gilets jaunes pour les élections européennes le 26 mai semble se confirmer. Francis Lalanne a présenté une liste Alliance Jaune, issue d'une alliance avec le mouvement Rassemblement d'Initiative Citoyenne, tandis que Christophe Chalençon sera à la tête de la liste Évolution Citoyenne. Un sondage à l'Institut Opinion Way, publié jeudi 2 mai, donne le Rassemblement National en tête des intentions de vote avec 24% des voix. 3 points devant l'Alliance La République En Marche et le Modem. Un autre sondage réalisé par LFOP et Fiducial pour Paris Match, CNews et sur Radio Place, aussi le RN, donc le Rassemblement National, devant la liste de la majorité avec 22,5% contre 21,5%. C'est la seconde fois depuis mi-avril que cette enquête place le parti d'extrême droite en première position. Oui, j'ai bien dit d'extrême droite en première position. Le sondage quotidien 2019 Opinion, d'Epoca et Harris Interactive donne toujours l'avantage à LREM, Modem, avec un score de 23,5%. Le RN suit avec 20% des intentions de vote devant la liste des Républicains à 13,5%. La France insoumise bénéficie quant à elle de 8,5% des voix, talonnée par l'Europe Écologie Les Verts à 8%. La liste PS, Place Publique, stagne à 5%, tout comme la liste Debout la France à 4%. La liste Génération peut seulement, ce sondage, espérer un score de 3,5%, légèrement plus qu'une liste Gilets jaunes, dont le score est estimé à 3%. Enfin, on retrouve en bas du classement l'UDI, le Parti communiste et les Patriotes à 2%, suivi par l'UPR et la lutte ouvrière avec 1,5%. Comme on peut le constater, c'est souvent les partis communistes et patriotes qui sont en fin des voix, en fin des listes, pour à l'inverse des partis d'extrême droite qui, eux, sont en tête des listes. Du coup, nous allons passer à la première.
C'est vrai que c'est étonnant de voir la France insoumise aussi loin alors qu'elle avait véritablement fait un carton aux élections présidentielles.
Exactement. C'est comme on peut le constater entre les élections européennes et les élections présidentielles, il y a un monde. Nous allons passer à la première pause musicale que j'ai choisie. Alors, c'est un titre de Georgia Smith que j'ai choisi. Blue Light, c'est un morceau sorti en 2018 dans l'album Lost and Found. Et nous écoutons.
I wanna turn those blue lights and you're getting off the bus. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Little blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of there. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool, is it question your friendship as man like you? Gonna make me a convict, devil of a fellow when I've done nothing wrong. Held on my hands, but I don't know where it's from. No, you got blood on your hands, but you don't know where it's from. No, so you better run when you hear the sirens coming. Oh, you better run when you hear the sirens coming.
Alors, c'était un très beau titre de Georgia Smith. Oui, Blue Light, c'est un titre R&B et soul. Et maintenant, je vais laisser la parole à Bastien, qui va nous parler de son choix d'actualité internationale.
Oui, merci Shana. Je vais vous parler donc de l'événement majeur de ce week-end, c'est la reprise des conflits israélo-palestiniens. Et oui, bon, bah ça s'arrête jamais. Ce week-end, nous fûmes encore témoins d'un regain de violence entre l'Israël et la Palestine. Pour rappel, le conflit israélo-palestinien persiste depuis 1948. Des décennies de violences, de morts et d'inaction à l'échelle internationale. En réalité, c'est très difficile de donner un avis sur ce conflit, étant donné que les deux forces présentes sont les opposées. Si la Palestine et l'Israël se battent, c'est depuis le plan de l'ONU de 47, merci les gars, qui a attribué 56% du territoire palestinien à l'Israël et 44% à un État arabe, étant donné que la Palestine n'est pas reconnue par de nombreux États. Un partage de territoire, ça ne satisfait personne, car chacun veut avoir la plus grosse part, comme le gâteau. C'est le début d'un conflit qui pourrait durer un siècle. De multiples affrontements ont traversé les années dans cette région. Ce week-end, justement, une violence sans nom a de nouveau frappé. Hier, on compte près de 430 roquettes lancées depuis Gaza, territoire palestinien, vers le territoire israélien. Et Le Monde nous informe que 4 Israéliens et 23 Palestiniens ont été tués ce week-end par des tirs de mortiers et roquettes. À la suite de la médiation de l'Égypte, la trêve entre la Palestine et l'Israël est entrée en vigueur lundi à 4h30. Est-ce que l'Israël et la Palestine sont destinés à se battre éternellement? J'ai posé la question à une passante. Voici son avis.
Ce week-end a été marqué par de nouvelles tensions entre l'Israël et la Palestine. Pensez-vous que le conflit est éternel?
Les nationalismes, c'est toujours un peu compliqué à gérer, et le conflit dure déjà depuis les années 40. Donc, trouver une issue, je pense que si on avait pu le faire, on l'aurait déjà fait. Il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas encore pensé, mais ça me paraît compliqué quand même.
Pensez-vous qu'on puisse avoir un siècle de conflit?
Oui, je pense. Je pense que c'est possible. Ça dure déjà depuis très longtemps. Et ça avance pas, c'est même de pire en pire, j'ai l'impression, donc oui.
Un conflit qui dure donc, un conflit qui pourrait durer un siècle, et toujours aucune solution. C'était aussi un conflit d'une rare violence, qui persiste d'après les décennies. Nous pouvons noter qu'en été 2014, date de la dernière grande guerre entre la Palestine et l'Israël, en 50 jours, 6 soldats israéliens ont été tués, contre plus de 2200 Palestiniens. C'est un conflit meurtrier qui pourrait durer encore plusieurs années si aucune solution n'est trouvée. Les États-Unis avaient proposé un plan de solution, mais je doute qu'il soit très efficace, car nombreux sont les pays qui ont tenté de mettre en paix ces deux nations, et avec aussi maintenant l'Égypte qui est là en mode relais
Il faut pour pas oublier que les États-Unis ont des intérêts en Israël, donc forcément,
oui, évidemment. Est-ce que le pacte,
le
je
projet
pense...
est objectif.
On non, je pense que le, évidemment
la date
que
le... du début de cette guerre était en 1948 et que du coup, ça fait quand même un bout de temps qu'elle aurait dû s'apaiser.
Je pense que les États-Unis vont bien sûr privilégier la carte de l'Israël et passer à côté de Palestiniens, enfin faire un acte de paix qui va surtout être contraignant pour les Américains. D'ailleurs, il est très dur pour les pays de choisir son camp. On peut notamment noter que Macron a tweeté ce week-end qu'il voulait défendre l'Israël de ses attaques, mais aussi défendre les intérêts de la Palestine. Donc c'est à 50-50, il n'y a pas vraiment de choix en
Bien
réalité.
Sûr. Moi, je dirais même, c'est pas qu'il est très dur pour les pays de choisir leur camp, mais il est très dur de bien se renseigner sur le conflit, étant donné que tous les pays ont un certain intérêt à un endroit particulier, et que du coup, résultat de ça, on a des plus ou moins bonnes informations, et pour se positionner, c'est compliqué.
Puis, il faut rappeler que l'Israël a l'un des meilleures agences de sécurité, l'une des meilleures agences de sécurité, ce qui fait qu'aucun pays ne veut se friter réellement avec elle. On se rappelle que dans les années 70, elle a envahi carrément l'Égypte après qu'ils aient déclaré la guerre pour défendre la Palestine. Et c'est une question sociopolitique très difficile.
Bien sûr, et à partir du moment où Israël a l'aide et la protection des États-Unis, cela devient plus compliqué pour les autres pays de se mettre à l'encontre d'Israël, donc des États-Unis, et d'autre part de se mettre avec la Palestine. De plus que c'est encore un nouveau regain de violence la veille, quelques jours avant, et la veille du Ramadan qui a commencé, qui a débuté aujourd'hui.
Après, c'est le Hamas qui a commencé à tirer.
Bien sûr, car ce sont un territoire où rien n'est tout blanc ou tout noir.
Gaza.
Oui, exactement. Parce que il y a.
C'est vrai que c'est difficile à savoir si le Hamas est une association terroriste ou une milice palestinienne nationaliste. Enfin, c'est très difficile à discerner.
Mm-hmm. C'est très difficile à discerner, surtout que ce sont des territoires qui sont en guerre depuis des décennies, donc il sera compliqué de trouver une solution qui arrange tout le monde. Donc c'était très intéressant, Bastien, merci.
Merci.
Et
à toi.
Et du coup, c'est au tour de Lilou de nous parler de son choix d'actualité à l'échelle nationale.
Alors bonjour. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'affaire Vincent Lambert. Et donc, pour bien commencer, je suis allée vous poser des questions dans la rue.
Bonjour. Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Linda.
Connaissez-vous l'affaire Vincent Lambert ?
J'en ai beaucoup entendu parler dans les médias parce que ça a fait polémique. En fait, la famille de Vincent Lambert a jugé que c'était inutile de continuer à fournir des soins vu qu'il n'avait plus aucune chance de survivre. Et du coup, là, ils se battent pour justement qu'il soit débranché. Alors que ça plaît pas aux autres personnes qui jugent que c'est pas éthique, etc. Du coup, la polémique a se construit autour de deux opinions qui sont divergentes.
Vous êtes pour ou contre le droit à mourir dans la dignité ?
Mon avis est partagé. Je ne pourrais pas me dire que je suis pour ou contre parce que j'arrive à me mettre des deux côtés. Du côté de la famille qui juge que c'est plus possible de continuer à fournir des soins, du temps, de l'argent pour une personne qui ne va pas survivre, vu que médicalement, elle n'a aucune chance de survie. Donc j'arrive à me mettre de leur côté et de me dire que c'est inutile de continuer à espérer pour au final pas grand chose. Et d'un autre côté, éthiquement parlant, c'est très dur de prendre une décision qui n'appartient pas finalement. La seule personne qui devrait décider de si elle devait mourir ou pas, c'est elle-même. Mais étant donné que c'est pas possible là, je pense que personne n'a le droit de vie ou de mort sur une personne, que ce soit des médecins ou la famille ou Du coup, je ne serai pas donnée, je me positionnerai pas sur ce sujet-là, mais c'est vraiment un sujet très délicat.
Bon, bah, merci beaucoup.
Alors, samedi, on apprenait que le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU demandait à la France de suspendre toute décision d'arrêt des soins de Vincent Lambert. Alors, cette affaire, elle ne date pas d'hier, elle a commencé en 2008 avec cet homme, Vincent, plongé dans un état végétatif depuis un accident de voiture. S'ensuit une bataille entre sa femme qui réclame l'arrêt des soins, soutenue par la loi Leonetti et l'hôpital, et des parents qui considèrent que l'arrêt des soins est un assassinat. Alors, qui a raison, qui a tort? En tout cas, les parents, dans la volonté de protéger leur fils, saisissent la Cour européenne des droits de l'homme et se lancent dans une véritable bataille judiciaire pour garder leur fils en vie. Pourtant, l'état du patient est jugé comme état végétatif chronique irréversible sans accès possible à la conscience. Et en 2019, le Conseil d'État valide la décision d'arrêt des traitements. Samedi, l'affaire refait surface. Le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU vient de rendre sa décision et réclame que l'arrêt des soins soit suspendu. Le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, faisait savoir dimanche que le gouvernement français répondrait à la demande du comité de l'ONU, mais que la France n'était pas tenue légalement de la respecter. Vincent Lambert se retrouve aujourd'hui contre son gré un des symboles de la lutte pour les droits de mourir dans la dignité. Alors, parlons de ce droit. Aujourd'hui en France, ce qui le représente le mieux, c'est la loi Leonetti. Et cette loi permet justement à un médecin ou à un patient d'arrêter les soins. Alors bien sûr, il y a tout un tas de conditions pour pouvoir décider, mais en France, contrairement à la Belgique, l'aide au suicide ou suicide assisté n'existe pas. Plusieurs associations se battent pour ce droit, mais pour le moment, il a toujours été refusé. Alors Shana, Bastien, pour ou contre le droit de mourir dans la dignité?
Moi, je suis pour.
Pourquoi? Pourquoi?
Parce que... Il est un moment où quand une personne est vraiment inconsciente, il peut pas dire s'il veut rester en vie ou pas. Et son inconscience, ça va rester toute sa vie. Il va jamais guérir, il va jamais sortir. C'est juste des illusions que les gens se font.
En plus, si je peux préciser quelque chose, cette personne, Vincent Lambert, il avait prévenu avant que si jamais il lui arrivait un accident, qu'il préférait ne pas être que sa vie ne continue pas soutenue par pas grand chose.
Il l'a dit.
Il l'avait précisé.
Bah, où est le problème?
Ben, les parents sont pas d'accord.
Mais à un moment, la décision du protagoniste lui-même compte plus que la vie des parents, non? Parce que s'il a déjà témoigné, à quel moment tu peux t'opposer et dire non, je veux pas, non, mon fils et tout, mais ton fils le veut.
Alors en fait aussi, autre information, les parents sont catholiques.
Ah oui, oui, ça.
Et du coup, considèrent que en gros, arrêter la vie de quelqu'un, c'est un assassinat et c'est pas
réalisable. Et sa femme était pour.
Réalisable. Et sa femme se bat pour que sa mort soit digne. Et qu'on mette un terme à sa vie en suspens.
Je pense qu'il est légitime de la part des parents de vouloir continuer à ce que leur fils vive. Mais d'un côté, c'est très égoïste, car comme l'a si bien dit Bastien, le choix revient à la personne qui est concernée. Et du coup, si la personne savait avant que l'accident arrive qu'elle ne se sentirait pas capable ou qu'elle n'aurait pas la force de survivre après un tel accident... On ne peut que respecter ce choix.
Surtout que plusieurs fois, il a été... en gros, si je devais vous expliquer concrètement ce que c'est arrêter la vie de quelqu'un en France aujourd'hui, c'est-à-dire c'est diminuer de plus en plus, donc stopper les médicaments et diminuer de plus en plus l'eau et ce qui permet de tenir la personne en vie, et c'est pas la tuer. En gros, c'est que son organisme s'arrête de lui-même de vivre parce qu'il en est incapable sans machine.
Mais oui, il le maintient en vie artificiellement.
C'est ça.
Au moment, les lois de la nature doivent reprendre le dessus.
Est-ce qu'on considère, même dans la religion catholique, que, en gros, c'est une vie d'être tenue comme ça par une machine? Mm-hmm. Est-ce que c'est la personne elle-même qui vit?
Et il faut savoir que les soins les machines qui gardent les personnes en vie, qui sont mortes cérébralement, mais qui gardent en vie les organes, ce sont des machines qui coûtent très cher et des soins qui coûtent très cher à l'État.
Oui, et puis apparemment, il n'a plus accès à sa conscience, donc c'est-à-dire qu'il en plus d'être soutenu dans le coma comme ça, il ne peut même plus, enfin, il pense plus.
D'accord, c'est une personne qui ne pourra jamais se réveiller.
En plus, voilà, on vit exactement. Dans un monde où il manque de personnel médical. Alors, s'ils sont obligés de s'occuper de personnes...
Bon, après, ils sont là pour ça. Donc...
Oui, ils sont là pour ça. Mais je veux dire, on manque de personnel dans le médical. Et s'occuper de quelqu'un dont on sait que la vie, ben, elle est finie, quoi, clairement, je trouve ça un peu dommage. Et ça, je veux dire, il faut laisser de la place, quoi.
Quoi que l'on dise, c'est un sujet qui fait débat. Et donc, je voulais te remercier, Lilou, pour ce sujet très captivant. Merci. Et du coup, c'est enfin à mon tour de vous parler.
Du coup, je vous propose juste avant de lancer la musique.
Oui.
Alors, ma musique, j'ai choisi Aisley ou Ashley, je ne sais pas trop comment ça se prononce, sorry, parce que j'ai des choix très originaux. Voilà. Et du coup, je vous propose Lilou. D'écouter.
Miss your calls for months it seems. Don't realize how mean I can be. Cause I can sometimes treat the people that I love like jewelry. Cause I can change my mind each day. I didn't mean to try you on, but I still know your birthday and your mother's favorite song. So I'm sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind. The way you laid your eyes on me in ways that no one ever could. And so it seems I broke your heart. My ignorance has struck again. I failed to see it from the start and tore you open to the end. And I'm sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind. And someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. Someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. Sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind. And someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. And someone will love you. Someone will love you. Someone will love you, but someone isn't me.
Alors, je suis un peu surprise parce que je pensais que j'avais choisi une musique peu originale. Et apparemment, autour de la table, il n'y a que moi qui la connais.
Oui, je ne connaissais absolument pas, mais je peux te dire, Lilou, que je suis agréablement surprise. C'est un très bon choix musical.
Moi non plus, je ne connaissais pas, mais je te promets que si un jour je me fais larguer, je te redemanderai le titre. Un peu déprimant ton truc quand même.
Ben, c'est pour aller avec le sujet. Hein.
Super.
Alors, nous allons passer à mon tour. De vous parler d'une actualité locale. Et mon choix se porte sur le festival du tatouage qui se déroule près de Toulouse. Des tatouages à gagner, des événements street art, le tatouage fait son festival près de Toulouse. La Tattoo Week est de retour au centre commercial de Blagnac pour sa 3e édition. Du samedi 11 au mercredi 22 mai 2019, plongez dans l'univers du tatouage et du street art. Le Tattoo Week est de retour pour une 3e édition. Organisé par le centre commercial de Blagnac, en Haute-Garonne, près de Toulouse, ce salon du tatouage ouvrira ses portes aux amateurs et aux curieux du samedi 11 au mercredi 22 mai 2019 et de repartir avec un souvenir gravé sur la peau. Observer un tatoueur travailler, découvrir les plus belles de ses œuvres, échanger quelques mots avec lui, de nombreuses animations diverses et variées tenteront de vous fondre au cœur de cet univers atypique. Vous découvririez les styles propres à chacun des artistes présents et oserez peut-être faire le grand pas du premier tatouage. Les moins convaincus pourront se diriger vers le bar à tatou éphémère pour faire l'expérience du jagua, un fruit tropical utilisé par les Amérindiens pour les ornements corporels. C'est tout ce qui vous attend en allant à la Tattoo Week. Et maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes tatoué et est-ce que nous vous retrouverons à ce rendez-vous?
Non, j'aime pas ça.
Pourquoi ça, Bastien?
Je sais pas, le tatouage, c'est pas un truc qui m'attire vraiment. Ouais. Je trouve ça que...
On a cru comprendre avec ce ton très lourd.
Tatoué, je comprends pas.
Tu n'aimes pas les tatouages? Tu ne comprends pas l'univers?
Je sais pas, ça m'attire pas. C'est pas des trucs qui m'attirent. Moi, j'aime bien avoir la peau et tout.
La peau nette.
Mais les tatouages, c'est vrai que je vois aucun intérêt. N'en déplaise à Lilou, hein.
Ouais, moi c'est vrai que j'ai déjà sauté le pas du premier tatouage, mais sans parler de soit on aime se tatouer ou pas, je trouve que le tatouage est un art à part entière et je trouve ça joli autant que le dessin en fait. Après, soit on aime, soit on n'aime pas, mais je trouve que c'est un art comme un autre, faut pas être méprisant.
Mais je ne suis pas méprisant.
Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
Exactement.
Oui, et pour donner mon avis...
Oui,
oui, parce qu'on n'a pas ton avis, vas-y Shana.
Pour donner mon avis, j'aime beaucoup les tatouages, le fait de les voir, mais je pense que je ne suis pas prête pour sauter le pas.
Oui, et puis pour ça, il faut choisir un bon tatoueur.
Exactement, il y a du travail derrière.
Qu'il y ait du soin, il faut bien l'entretenir, enfin c'est compliqué d'avoir un tatouage en soi.
Mais imagine, tu regrettes ton tatouage après. Comment ça se passe?
Si tu regrettes ton tatouage, c'est que tu l'as pas bien choisi.
Exactement, et il faut que ça soit bien réfléchi.
Déjà, là, c'est que tu l'as fait sur un coup de tête et que...
Il y en a beaucoup qui le font sur un coup de tête.
Il y en a beaucoup qui font l'erreur de prendre des tatouages à la mode, comme on voit, ou des speed tattoo, là. Et finalement, les tatouages sont moches. Ben, faut choisir un bon tatoueur, être sûr, avoir réfléchi, prendre bien une année ou deux.
Il y a aussi les gens qui tatouent le nom de leur conjoint ou conjointe.
Ah oui, ben très, ça pour une très grosse erreur, c'est sympa. Hein.
C'est un choix, mais oui, s'il y a rupture, c'est compliqué pour le nouveau ou la nouvelle petite amie.
Vaut mieux tatouer le nom de son chien. Là, t'es sûr, tu l'aimeras toute ta vie, il te fera pas de...
Il y aura pas de problème avec le chien.
Ou les têtes de bébé, les visages qui sont ratés, souvent on le voit ça.
Oh, ça c'est immonde par contre. Déjà, ne jamais faire le visage d'une personne.
Oui, ce sont des choix, je pense qu'il faut que ce soit très bien réfléchi, ne pas le faire sur un coup de tête, ne pas se faire tatouer en soirée quand on est alcoolisé non plus.
Ah, parce qu'il y a des gens qui le font.
Ah, oui, il y a beaucoup de gens qui se font tatouer en soirée, il y a des soirées, surtout aux États-Unis.
C'est pas que dans Very Bad Trip.
Ah, non, pas que.
Ah, bon.
Il y a beaucoup de soirées, surtout aux États-Unis, où il y a des tatoueurs qui tatouent les gens. Et du coup, beaucoup de gens se réveillent avec un tatouage qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir fait.
Faudrait faire des tests d'alcoolémie avant les tatouages, ça pourrait être sympa. Et d'ailleurs, le salon du tatouage, je pense que ça pourrait être sympa, rien que pour jeter un coup d'œil. En fait, dans les tatouages, il existe beaucoup de styles différents, et comme le dessin, et ça peut être intéressant d'aller se renseigner, regarder ce qu'on aime, rien que pour jeter un coup d'œil.
Exactement.
Je sais pas, c'est inspirant, je sais pas. Moi,
poser des questions au tatoueur pour savoir un éventuel tatouage, ça peut être intéressant, oui.
Même sans éventuel tatouage, moi j'aimerais bien me balader dans un endroit avec plein d'hommes tatoués, je trouvais ça drôle.
Oh là 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 là. Lilou, toujours les hommes tatoués.
Du coup, c'était très intéressant également sur cette Tattoo Week. Le festival du tatouage. L'émission touche malheureusement à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Une oreille sur l'actu, avec cette fois Lilou aux commandes.
Merci, merci.
Ciao, ciao.